Les élections régionales permettent d'élire, au suffrage universel, des conseillers régionaux pour 6 ans.
Est-ce que vous avez voté hier pour le premier tour des régionales ?
Oh non, j'ai pas voté.
Alors les jeunes et la politique, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous en pensez quoi ?
Et si les jeunes et la politique, ça fonctionne, la preuve, on continue à se lever tôt pour couvrir ces élections régionales. C'est l'avant-dernière émission et aujourd'hui, je suis avec Simon et Tim. Bonjour.
Bonjour Maxime.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Alors, aujourd'hui, nous accueillons le parti Les Républicains. Pour ça, nous accueillons... Aujourd'hui, on reçoit Hugo Corazza. Hugo Corazza, vous faites du hockey sur glace à Anglet.
Tout à fait.
Du moins, c'est ce que Google dit.
Google a raison.
Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup d'homonymes d'Hugo Corazza, mais celui qui nous intéresse est responsable départemental des Jeunes Républicains d'Indre-et-Loire et candidat sur la liste Les Républicains en Indre-et-Loire. Bonjour.
Bonjour Maxime, et puis bah, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, à quel âge vous êtes-vous engagé en politique ?
Eh bah, j'ai commencé aux dernières élections régionales. J'étais arrivé dans une salle pleine pour un dernier meeting d'Hervé Novelli à la mairie de Tours. Et je venais en simple citoyen pour découvrir. Et je me suis retrouvé avec un t-shirt trop grand avec écrit « Soutien Hervé Novelli ». Et en plein milieu de la scène, à chanter la Marseillaise à tue-tête. Et c'est de là que la partie a commencé pour moi.
Vous êtes fait enrôler pendant un meeting en fait.
Bah ils sont doués pour ça. Hein.
C'était en quelle année ?
2010.
Les dernières élections.
Ouais, les dernières régionales.
Alors, qu'est-ce qui pousse à s'engager dans un parti politique si jeune ? Vous avez quel âge à l'époque, d'ailleurs ?
En 2010, j'avais 17 ans. J'allais sur mes 18. Et du coup, je pense que c'était instinctif. J'avais une famille qui avait été relativement politisée, qui m'avait un peu ouvert cette voie. Et ça s'est fait tout naturellement. Donc après, j'avais le choix entre gauche et droite s'est rapidement fait à l'approche de la présidentielle. Bon, on était déjà en 2010. Et ça s'est fait tout naturellement pour moi. Voilà.
Alors, on va aborder dès maintenant les sujets qui fâchent. Toutes les listes nous ont envoyé leur tête de liste régionale, ou au moins celle d'Indre-et-Loire, pas vous. C'était également le cas aux élections départementales, pourquoi ?
Alors, aux élections départementales, je ne sais pas à qui vous êtes adressé, mais en tout cas, moi, je n'ai rien reçu, et en tout cas, en tant que jeune républicain à l'époque, on n'était pas au courant.
C'était à Christophe donc, Boucher aux élections départementales.
Qui était UDI.
Qui était UDI. Bon,
qui pouvait mobiliser des têtes de liste UDI, mais en tout cas, nous l'avons...
Il partait avec vous.
Ah ben bien sûr.
Il partait avec Feu l'UMP.
Bien sûr, Feu l'UMP, maintenant les Républicains. Mais bien sûr, après, c'est toujours un emploi du temps extrêmement compliqué. Et puis, je vais vous dire, certes, on envoie les têtes de liste. C'est très bien les têtes de liste. Mais justement, dans tête de liste, il y a aussi liste derrière. Donc c'est bien aussi de pouvoir voir que certains sur la liste peuvent s'exprimer. On ne vote pas pour une tête, on vote pour une équipe entière. Alors oui, on est 20 sur la liste, donc c'est bien aussi que moi, en tant que jeune, je puisse venir sur Radio Campus m'exprimer aujourd'hui. Claude Greff l'aurait fait tout aussi bien, si ce n'est mieux, évidemment. Mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir avoir que le deuxième, le troisième, le cinquième, le dixième, le onzième, même ceux qui ne sont pas éligibles, puissent donner leur avis et porter leur valeur. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi.
Je suis tout à fait
même
d'accord.
Même si c'est
avec
peut-être
ça,
un peu moins vendeur.
C'est peut-être un peu moins vendeur. Effectivement, il faut que tout le monde parle. Mais sur une invitation à un média, un seul candidat vient. Tous les autres candidats nous envoient des têtes de liste.
C'est très bien pour. Non, c'est pas.
On s'est peut-être demandé, peut-être que Radio Campus Tour est paranoïaque, si vous ne manquez pas un peu de considération pour notre radio.
Non, parce que je suis là. Ça voudrait dire que le 20e ne vaut pas le premier ?
Ah, c'est vous qui le dites. Alors, la liste des régionales est conduite par Philippe Vigier, s'appelle Centre-Val-de-Loire, la Renaissance.
Ouais.
Pourquoi ? Notre région était morte ?
Complètement. Et ça fait 17 ans qu'elle est morte. 17 ans qu'on est engoncé dans cette espèce de petite région dont personne ne veut, avec qui personne ne s'est associé, cette espèce de petit bout de territoire maintenant qui, finalement, dans les toutes nouvelles régions, ne représente rien. C'est quoi la région centre aujourd'hui face aux monstres qu'ils ont créés au sud avec l'Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, avec la région francilienne qui elle est porteuse de tout, avec ces grandes régions qui se sont créées, nous on est seuls au milieu, on est tellement endettés, on est tellement mauvais que personne n'a voulu de nous. Parce que les barons, et il faut bien le dire, les barons socialistes n'ont même pas voulu s'associer avec Bonneau qu'ils ne connaissent pas, parce que Bonneau ne s'est jamais déplacé dans les autres régions. Il connaît même pas les autres présidents.
Vous attribuez la situation de la région Centre-Val-de-Loire au...
Mais qui gouverne depuis 17 ans ? C'est tout simplement, il y a une politique qui a été menée depuis 17 ans. Bah, il y a 17 ans, après, je ne veux pas remonter trop loin, j'étais à peine né. Bon, je connais mon abécédaire de la politique, mais pas jusque-là. Mais voilà, ça fait 17 ans, et je pense qu'en 17 ans, on peut marquer un territoire en bien ou en mal. Aujourd'hui, je crois que si effectivement notre liste est plutôt donnée gagnante, c'est pas pour rien.
Après, vous parlez aussi du fait que c'est une région dont personne ne veut depuis 17 ans. Ça fait quand même, depuis la création de la région Centre, que personne ne veut des départements qui la contiennent. Moi, je me souviens d'histoires de tensions entre Michel Debré, Jean Royer,
bien sûr,
de Tours dans les années 50-60 pour discuter de qui voulait de quel département dans la région. Donc ça date pas non plus du socialisme.
Bien sûr, alors on le sait que cette région, elle a été faite parce qu'elle n'avait pas véritablement d'identité,
voilà.
Qu'on devait s'articuler autour de la Loire, avec des pays de Loire, dans les premiers projets, dès les années 60. Et finalement, on nous a mis ensemble, c'est ce paquet Orléans, Tours, Chartres, Bourges, Châteauroux, qui n'avait pas vraiment de consistance réelle. Mais maintenant que c'est fait, on a quand même une identité à défendre, on a quand même des choses. On est la région Centre, Val-de-Loire. D'ailleurs, grâce à un amendement de la droite, le Val-de-Loire, ça parle plus aux gens. Le Val-de-Loire, c'est connu.
C'est pas un nom qui va changer la situation.
Mais bien sûr que si. Sinon, pourquoi tous les autres candidats le proposeraient? C'est pareil. Île-de-France, ils veulent tous le changer. La région, la grande région Nord, on va pas appeler ça Nord, Pas-de-Calais, Picardie.
Donc un nom peut changer la
bien
situation
sûr, un nom,
d'un
c'est
organe. C'est
bien
pour
sûr.
Ça que vous êtes passé les Républicains.
Mais bien sûr, parce qu'il y a un changement derrière. Parce que Val-de-Loire, ça signifie quelque chose pour les étrangers qui viennent. Le Val-de-Loire, ça parle à tout le monde. C'est les châteaux, c'est la Touraine, bien sûr. Et toute la région Centre à travers elle. Donc bien sûr que si vous vous appelez Radio Campus, c'est bien que vous ciblez et que vous voulez être connu par une certaine catégorie, les jeunes en général. Et ben nous, c'est pareil.
Alors, j'ai un petit défi pour vous.
Ouf, tôt le matin.
Ressortez, ou au moins faites un compliment du mandat de François Bonneau. Ressortez quelque chose de positif.
C'est beaucoup me demander si tôt le matin. Quelque chose de positif du mandat de François Bonneau.
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses, on y reviendra.
Ah, les points de vue sont différents, mais là, je vous avoue que c'est un peu tôt pour moi.
Vous avez vraiment aucune idée? Rien, même pas?
Franchement, en plus, je vous avoue qu'avec la campagne qui est menée de leur côté, c'est très difficile. Je pourrais dire, à la limite, ce qui était une bonne idée au début, en 2010, et maintenant, ce qu'ils reproposent, la ficelle est un peu grosse, mais ce qui était à peu près bon, c'était les iPads, qui sont distribués, effectivement, quand on est maintenant en fac, en tant qu'étudiant, quand on entre... vraiment dans le supérieur des études supérieures, où ils distribuent gratuitement, pour les élèves méritants, effectivement, un iPad. Sauf que malheureusement, c'est qu'aujourd'hui...
C'est pas un iPad et...
Si, avant, c'était les ordinateurs en 2010, maintenant, oui, c'est les tablettes, pardon.
Voilà, et puis on pardon. Évite de citer une marque sur Radio Campus.
Autant pour moi.
Oui.
Mais... Oui, vas-y.
Justement, je vais poser directement ma question que je voulais poser un peu plus tard, c'est comment, quand on est une liste républicaine, on peut... lutter véritablement contre une liste PS, sachant que malgré la conjoncture actuelle nationale, le bilan de François Bonneau à la tête de la région depuis 2010 n'est pas dégueulasse en réalité. Je peux citer des chiffres si vous voulez.
Allez-y.
Bah, par exemple, il avait promis 10 000 emplois nouveaux directs non délocalisables. Il en a créé 20 000. 7 900 emplois créés, 12 000 maintenus. Il y a 1245 entreprises qui ont bénéficié d'un diagnostic innovation-croissance pour engager une nouvelle étape pour leur développement. Il y a 1500 maîtres d'apprentissage qui ont été formés. Il y en a plus de 2000 qui ont été financés. Ça, c'est quand même des choses qui avaient été promises et qui ont été appliquées.
Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, si on part de ce bilan-là, il est très bon, effectivement. Mais alors, il faudra m'expliquer pourquoi François Bonneau va perdre. Pourquoi François Bonneau est si peu connu? Pourquoi la région a perdu 2000 apprentis depuis 2012? Pourquoi la région est endettée? Pourquoi, effectivement, la majorité socialiste qui est là depuis 17 ans et qui fait un si bon travail va aujourd'hui perdre?
Ah, mais pourquoi... c'est pas pour
non, mais...
défendre la majorité socialiste
non, bien,
qui fait
bien
du
sûr.
Si bon travail que je
bien
dis ça.
Bien sûr, mais voilà, il faut prendre les choses comme elles sont. Il y a des réalités. Si le bilan était si bon, si le chômage, qui est une principale compétence de la région, était vraiment bas, une politique avait été mise en place pour les entreprises, il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. On le voit et ça se traduit. Alors, faut toujours faire attention quand on manie les sondages. Mais effectivement, si aujourd'hui la dynamite est du côté de la droite et du centre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
C'est parce que le gouvernement national est en difficulté.
Il n'y a pas que ça. Je pense pas qu'il y a véritablement que ça. Parce qu'effectivement, le gouvernement, ça joue toujours. Ça joue pour une municipale, ça joue pour des départementales, droite ou gauche confondues. Mais je pense qu'aussi, les gens sont pas idiots. Les gens vont aussi pour ce qu'ils voient de la région, pour ce qu'ils connaissent de la région. Et malheureusement, ici, ils y connaissent rien, la région. Mmh. Parce qu'il faut pas se voiler la face. La région, ça ne parle à personne. Qui ici connaît son conseiller régional?
Alors, on va essayer d'avancer un petit peu sur les questions d'ordre général. Alors, si on regarde la liste réduite à notre département.
Oui.
Elle s'appelle Bâtissons l'avenir.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il faut bâtir l'avenir.
D'accord.
Tout
après
simplement.
La Renaissance, il faut bâtir l'avenir.
Non, la Renaissance, c'est le slogan régional. C'est toujours,
oui.
C'est toujours la même idée. Bâtissons l'avenir, c'était aussi un slogan qui avait été choisi pour lancer la campagne. Pour ensemble bâtir l'avenir, effectivement. Maintenant, on est sur la Renaissance. Et il faut renaître. Effectivement, c'est le mot qui a été choisi. En plus, la Renaissance, ça colle très bien à notre département et à notre région. C'est effectivement le cas aujourd'hui. C'est ce qu'il faut, une véritable Renaissance.
Alors, cette liste rassemble les Républicains, l'UDI, le Modem, un chasseur. Alors, c'est la liste la plus rassembleuse depuis 20 ans, selon Philippe Vigier. À quoi c'est dû ?
À une nécessité, d'abord. Je pense vraiment à une nécessité, vu la situation politique. On n'a pas le droit de se déchirer dans des guerres intestines, des guerres de personnes. Il faut qu'on soit rassemblés, parce que finalement, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. La preuve en est cette constitution de liste. Après, c'est aussi une nécessité donc politique, mais aussi une véritable envie. On avait envie de se mettre ensemble. Alors, je dis pas que ça n'a pas été facile, ou que ça a été facile, pardon. Il a fallu se battre, il a fallu aussi négocier, mais ça, c'est comme tous les partis, ça, c'est évident. On négocie pas avec des gens avec qui on s'entend déjà, ou avec qui tout est déjà prêt. Donc, ça a été une nécessité et une véritable envie aussi, parce qu'il fallait qu'on reconstruise après 17 ans cette région et qu'on savait qu'il fallait qu'on le fasse tous ensemble.
Est-ce que votre union, elle est due à une véritable envie de construire cette région, ou alors
bien
c'est
sûr,
plus une
bien
union
sûr.
Contre
le
socialisme en place ?
On se serait pas donné autant de mal, sinon c'était facile. Mais on lutte, en luttant contre le socialisme et les Verts et les communistes qui y sont associés, bon, même si eux-mêmes ne s'associent pas au bilan de François Bonneau, puisqu'ils partent divisés, nous, effectivement, on avait envie de battre les socialistes, on l'a toujours envie, pour pouvoir reconstruire cette région.
Alors, selon le dernier sondage de la Nouvelle République, Philippe Vigier arriverait en tête au premier tour avec 34% d'intention de vote, ainsi qu'au second tour avec 39%. Est-ce que c'est déjà gagné ?
Non, bien sûr que non. C'est une bonne, un bon sondage, c'est très encourageant pour nous, mais c'est pas gagné. Et puis surtout, moi, ce qui me choque, c'est quand je vois le FN qui est à 31% et qui passe devant François Bonneau. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Alors, c'est qu'un sondage. On verra, je peux pas parler avant dimanche prochain. Mais oui, c'est encourageant pour nous, ça prouve qu'on fait du travail, ça prouve qu'il y a un véritable élan pour nous, une véritable dynamique. Malheureusement, ça prouve aussi qu'il y en a une pour le Front National.
Vous avez une explication à fournir pour cette montée du FN, du moins au niveau régional ?
De l'abandon. C'est exactement, je pense, le même pronostic que pour les départementales. Les territoires où le FN a fait de très bons scores aux départementales, c'est là où les villages sont abandonnés. Là, je cite par exemple le canton de Langeais. Au départemental, c'est des régions qui ont été abandonnées, des villages qui perdent tout, où il n'y a plus d'habitants, et les gens ont peur d'être délaissés. Mais c'est une peur que je comprends, et que Claude Greff et Philippe Vigier comprennent, bien sûr. On sait pourquoi ils votent FN, parce qu'effectivement, ils ont peur d'être délaissés, parce qu'ils ont l'impression d'être abandonnés, parce que dans leur village, il n'y a plus rien, parce qu'il y a même le petit PMU du coin ferme. C'est tout, c'est vraiment ça. Plus qu'un effet, alors il y a aussi l'effet attentat qui apparemment aurait fait grimper.
Ils n'ont pas eu besoin de ça pour être deuxième des sondages.
Non, bien sûr, mais apparemment ça accentue. Donc là, il y a toujours cette peur qui revient. Mais c'est toujours la question de la peur, finalement, qui fait voter FN. C'est la peur qui guide le vote FN, à mon sens.
Nous sommes avec Hugo Corazza, représentant de la liste Les Républicains. Nous avons essayé de présenter un petit peu la personne et le programme. Et on va attaquer des termes plus techniques avec des questions sur le programme. On commence par l'économie et l'agriculture avec toi, Simon.
Oui, votre premier objectif dans votre programme, c'est de lancer un plan de relance de 500 millions d'euros.
Oui.
Donc aujourd'hui, pour petit rappel, la part de financement dans le budget primitif de la région centre était de 290 millions d'euros en 2014 et avait déjà été augmentée de 1,5% par rapport à l'année d'avant. Donc 290 en 2015. 500 pour vous à votre élection, ou trouvez-vous les 310 restants ?
Alors, il faut être précis, d'abord c'est 500 millions sur 5 ans, donc c'est pas 500 millions d'un coup qui vont sortir comme ça
et
de la poche de la région.
Dès décembre, on va réunir...
Et ce sera en association avec les départements. La région peut tabler sur 100 millions d'investissements directs. Et après, on travaillera avec les départements. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est pour ça que Philippe Vigier, Guillaume Pelletier et Marc Fénon ont rencontré les présidents et vice-présidents de départements il y a quelques jours. Qui sont tous de droite, avec qui évidemment on pourra travailler, et ce sera un plan qui sera mis en application, une par région, une par département, bien évidemment, chacun sa responsabilité, parce que chacun ses spécificités.
D'accord, et quand vous parlez d'investissement pour nos auditeurs, vous évoquez quoi, 500 millions ?
On parle des bâtiments, on parle finalement de la rénovation de ce qui existe déjà, à travers les besoins spécifiques des départements. Nous, en Indre-et-Loire, on en aura, par exemple pour certaines routes départementales encore, pour tout ce qui est effectivement vraiment axé sur la rénovation plus que sur la nouvelle construction. Déjà améliorer ce qui existe, donc vraiment tout ce qui existe sur les routes, les bâtiments.
D'accord, très bien. Pour l'économie, vous parlez aussi d'un plan de patriotisme économique régional et de circuit agricole de proximité.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, ça fait un peu
tout simplement faire marcher, tout simplement faire marcher les gens de notre région, les entreprises et les agriculteurs de notre région. Par exemple, dans les lycées, que la nourriture qui soit dans les lycées vienne de notre région. C'est moins loin.
Sans augmenter les prix.
Bah bien sûr. Bah de toute façon, à partir du moment où c'est des circuits courts, c'est beaucoup plus simple pour nous que de faire venir ça d'ailleurs. C'est une question de logique aussi. Parce que le fret, ça coûte cher. Parce que les faire venir en camion, ça peut coûter cher. Alors que là, on fait marcher notre entreprise. Et oui, alors, on peut payer aussi parfois un peu plus cher. Mais si c'est aussi pour pouvoir développer notre économie et aider nos agriculteurs qui sont en grande difficulté aujourd'hui, pourquoi pas ?
Très bien, mais justement, d'ailleurs, le monde rural constitue une bonne partie de l'électorat FN. Vous êtes d'accord avec vous cette affirmation. Le FN qui propose également cette mise en place de circuits courts de ce type. Qu'avez-vous plus que à ce niveau-là ? Parce qu'eux le proposent depuis un moment quand même.
Ça, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils le proposent depuis un moment. Je pense qu'ils en profitent aujourd'hui et qu'ils se sont rendus compte que les gens votaient pour eux.
Le circuit fermé, ça fait plusieurs élections quand même.
Oui, enfin, jusqu'ici, j'ai jamais eu vraiment le détail des propositions du FN là-dessus. Ils ne nous expliquent pas spécialement pourquoi ils veulent le mettre en route. Et c'était plus d'ailleurs pour l'Indre-et-Loire elle-même, en Indre-et-Loire, ce qui était le cas pour les départementales, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Effectivement pour la région. Après, cette idée n'est pas mauvaise, bien sûr. Alors le FN, tout n'est pas bon à prendre.
Il propose les circuits fermés également pour la région.
Bien sûr, bah aujourd'hui, oui, bien sûr. Oui.
Donc pour venir au monde rural, il propose des circuits fermés. Pour venir en aide au monde rural, vous proposez des circuits fermés.
Mais parce que c'est une solution. Alors ça ne veut pas dire qu'on est... Je vois où vous voulez aller, mais ça ne veut pas dire qu'on est le Front National.
Je ne veux pas faire de similitude. Je veux savoir si vous avez une idée qui va plus loin.
Comment ça ?
Ou si effectivement l'idée des circuits fermés, c'est ce que vous proposez pour le monde rural et au final le FN aussi, quoi.
Mais bien sûr qu'on veut privilégier effectivement nos agriculteurs dans la région. On est une région agricole, on en a besoin. Alors effectivement, on le sait tous aujourd'hui que c'est très difficile pour eux de fonctionner, alors il faut les aider, bien sûr. Et à mon sens, ça passe par ces circuits.
Votre point numéro 6 ou 7 de votre programme m'a un peu étonné. Bon, on l'entend souvent, mais vous parlez de suppression des normes inutiles, notamment concernant le monde de l'entreprise, etc. Et ce genre de phrase, c'est un peu pareil, ça me fait un peu bizarre. C'est très bien de supprimer ces normes inutiles, mais il faudrait les nommer avant de pouvoir dire « on va les supprimer ».
Elles sont nommées, c'est qu'il y en a tellement dans un programme.
On peut avoir des exemples ?
Honnêtement, là... Moi, personnellement, je dois bien avouer qu'à la région, je sais que c'est extrêmement difficile. Je n'ai pas de nom spécifique de document, j'ai pas de... Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'on a rencontré des entreprises. On a été notamment à l'île Bouchard à BCE, on en a visité beaucoup. Enfin, moi, personnellement, c'est celle-ci que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce qui revient toujours, c'est l'administration française. C'est des demandes de subventions. Donc la région leur demande s'ils en veulent, ils envoient les papiers, mais finalement ils vont apporter eux-mêmes le papier, finalement non, parce que c'est plus la bonne année ou c'est pas le bon document. Enfin, c'est vraiment des petites choses finalement.
Ouais, là vous parlez de la complexité administrative, vous parlez pas des normes
Bien sûr,
inutiles.
Mais l'administration, c'est elle qui met en place les normes. Là, à travers l'administration, je vise effectivement
ça peut être la loi aussi qui met
oui,
en place
sûr,
les normes.
Oui, bien sûr, c'est État, loi, région, enfin voilà. C'est toutes ces choses-là, mais effectivement, et c'est pour ça que dans le programme, on avait prévu également de mettre un guichet unique pour les entreprises, pour qu'elles puissent s'adresser à la région, un guichet unique, et pas qu'elles aillent à chaque service, qui les renvoie vers un autre service, et ainsi de suite. Parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent, et je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que les chefs d'entreprise aient vraiment ce loisir-là.
On va parler d'un autre sujet, si vous le voulez bien. Charles Fournier, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les régionales, souhaite fermer l'aéroport de Tours, qui est subventionné à hauteur de 1 million d'euros chaque année par la région. Le département a déjà supprimé ses subventions. Est-ce que si demain vous arrivez à la tête de la région, vous allez quand même le maintenir? Et est-ce que honnêtement et franchement, ce matin, vous pouvez garantir son maintien?
Bien sûr, c'est notre volonté. On veut garder cet aéroport. On a construit un aéroport. C'est pas parce que sous la pression des écologistes qui pèsent, pardon de le dire, mais pas grand-chose, et plus par idéologie que par pragmatisme, veulent fermer cet aéroport. C'est quand même une chance d'avoir un aéroport.
Mais financièrement, il est loin d'être rentable. C'est un petit aéroport, il est pas...
Mais c'est comme le service public. C'est pas toujours rentable, mais pourtant c'est nécessaire. Alors oui, on le subventionne, et oui, il faut essayer de le développer. S'il n'est pas rentable aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas développé cet aéroport. On l'a laissé en l'état... On disait un peu, allez aux écolos, oui, on va le restreindre un maximum, on le fermera, on verra pour qu'il soit content. D'un autre côté, il fallait quand même faire marcher cet aéroport parce que les gens l'utilisent. Alors effectivement, mais après, il faut lui donner les moyens de marcher à cet aéroport. Et à partir du moment où vous n'avez pas la confiance et la volonté politique pour faire marcher quelque chose, bah derrière, évidemment, ça ne suit pas.
Vous savez à quel point il est utilisé? Vous avez des chiffres, quelque chose?
Non, pas spécifiquement, mais je sais que s'il est là, c'est pas pour rien. Il y a une logique à ça aussi. Je sais que l'aéroport de Tours peut mener rapidement à plein d'endroits, va même ailleurs qu'en France. Donc c'est une chance pour nous. Mais il faut le développer, il faut l'améliorer absolument. Et c'est pour ça que la région est indispensable dans ce financement.
Après, il y a une petite question qu'on peut se poser. C'est avoir un aéroport pour partir visiter un peu le monde à l'étranger. À quoi ça sert quand on a une si belle région et une région si touristique? Et ça fait une magnifique transition pour passer aux questions sur le tourisme.
Oui, on va parler du tourisme. Vous voulez, dans votre programme, si je cite, proposer une offre touristique nouvelle à destination des familles et des jeunes. Très bien. Mais ça existe déjà, ça, non?
Rien de nouveau.
Bah non, puisque
le tourisme fluvial.
Fluvial, ouais,
bien sûr. La Loire n'est pas mise en valeur.
Il existe déjà un tourisme fluvial sur la Loire.
Bien sûr,
sur
heureusement, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais Saint-Martin-de-Tours, justement, c'est une initiative aussi qui a été surtout prise par la municipalité et qui, d'ailleurs, je pourrais le dire, l'opposition municipale ici et même régionale n'était pas très chaude à ce projet. On a vu les articles dans l'ANR. Hein, dans la mairie n'en fait-elle pas trop? Je vois pas comment on peut en faire trop quand on veut essayer de faire connaître sa ville. Pour ce qui est du tourisme fluvial, la ville de Tours également a des projets concrets et la région les accompagnera. La région va accompagner, c'est pas la région forcément en elle-même qui va faire des projets régionaux, mais chaque département aura des besoins, chaque ville et agglomération aura des besoins et on les aidera à mettre ça en place parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'aide pour mettre ça en place. Donc pour créer ces nouveaux pôles touristiques à travers la Loire, puisque Val-de-Loire, bien que ça parle à quelqu'un, donc il faut le mettre en valeur. Donc c'est à travers ce nom, comme je le disais tout à l'heure, de Val-de-Loire, ça transcrit quelque chose de concret.
Place aux jeunes maintenant, on est une radio pour les jeunes, donc on va aborder ce thème. Vous souhaitez rétablir les bourses au mérite, là aussi, avec quel argent et comment?
Alors, les bourses au mérite, je vais être clair, donc elles n'ont pas été spécifiques. Elles ont été supprimées un temps, elles ont été rétablies, mais en fait c'était à la moitié de ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire à rien. Avec quel argent? Tout simplement à travers, une fois de plus, l'argent de la région, effectivement, dans le plan d'investissement des 100 millions. Je vous avoue que c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est quand même une marque et un symbole, la bourse au mérite. C'est pas, c'est pour ça que quand le gouvernement à l'époque l'avait supprimée, même moi, je la touchais pas, mais j'étais. Il y a peut-être d'autres choses à supprimer que la bourse au mérite.
Un symbole de quoi, la bourse au mérite?
Bah de mérite, justement. C'est-à-dire, celui qui a le mérite d'avoir fait les choses bien et de vouloir continuer à faire les choses bien, on l'aide. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont méritants justement de jeunes et qui n'ont pas forcément les moyens pour tout, pour le logement, le transport, enfin on connaît toutes les thématiques. Donc effectivement c'est important.
Mais vous savez pourquoi avait été créée la bourse au mérite? C'était pour encourager les jeunes défavorisés, les jeunes boursiers à avoir la mention très bien. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début des années 2000, il y avait 2% des bacheliers qui avaient eu la mention très bien. En 2014, il y en avait 12%, sauf que le nombre d'élèves boursiers obtenant la mention très bien n'a pas évolué de 2 à 12%. C'est pour ça qu'aussi qu'on s'est dit que cette bourse au mérite, peut-être qu'elle était là pour financer
le problème
des élèves.
Le problème n'est plus dans la bourse au mérite, mais alors dans le bac. Mais là, c'est un autre sujet. C'est pas à la région de s'occuper de ce qu'est le bac et comment on le passe. Là, c'est un autre problème. La bourse au mérite en elle-même est une bonne idée. Aider des élèves méritants en difficulté. De tout temps, ça aurait été une bonne idée. Alors aujourd'hui, le problème, effectivement, se porterait peut-être plus vers le bac, plus vers cette mention effectivement qui est obtenue aujourd'hui peut-être plus facilement. Bon, mais ça c'est un autre problème, c'est pas celui de la région à mon sens.
Vous souhaitez aussi faire de l'université François Rabelais un leader européen en encourageant les coopératives entreprises universités, ouais. Ça veut dire quoi?
Favoriser les partenariats avec l'autonomie des universités, on a une chance, elles ont une chance de pouvoir participer avec les entreprises au regain, à la renaissance de la région centre. C'est quand même malheureux, on est quand même 28 000 étudiants, on a tout ce qu'il faut pour accueillir 50 000 étudiants comme Rennes, ou en tout cas tout faire pour qu'ils ne partent pas à Lyon, à Paris
grâce
ou à Marseille.
Grâce à qui on a tout ce qu'il faut?
Comment ça?
L'université à l'heure d'aujourd'hui, l'université notamment de Tours, puisqu'on est en Indre-et-Loire.
Ah, j'entends l'université, mais j'entends aussi dans le cadre de vie. On a la place Plume, que j'imagine vous connaissez aussi bien que moi. On a tout ce qu'il faut, on a la Loire, on a des bâtiments qui peuvent être mis à disposition, enfin des logements. On peut accueillir tous ces jeunes. Tours, c'est pas le malheur de Tours, parce que oui, je suis un peu chauvin, j'aime bien la Touraine. Mais même la région, le grand malheur de notre région centre, et c'est historique, c'est une région de passage. On traverse. Pour aller à Bordeaux, pour aller à Lyon, pour aller ailleurs. On n'y reste pas, on ne s'y implante pas. Ça, c'est pour des raisons historiques. Et c'est malheureux. On a tout ce qu'il faut pour accueillir Tours et 28 000 étudiants. On pourrait en avoir bien plus. Bien plus, à mon sens. Alors, effectivement, la région, je vois ce que vous voulez dire, a participé, effectivement, à la mise en place de l'université, bien sûr. Je ne vais pas détruire François Bonneau ce matin et absolument tout ce qu'il a fait, bien sûr. Mais après... Il faut continuer à suivre. Alors, ça passe par des nouveaux bâtiments, des nouveaux locaux, c'est très bien, mais il y a tout un suivi derrière. Et le partenariat avec les entreprises en fait partie, parce que si on attire des entreprises, on attire aussi des financements, de la participation et des capacités d'accueil plus grandes.
Est-ce que les universités, elles doivent s'agrandir et se rassembler pour être plus puissantes?
Bah, c'est déjà le cas. Enfin, les facultés se réunissent à travers justement l'université, effectivement. Après, ça dépend du nombre d'étudiants, à travers vraiment des besoins réels. Donc, bien sûr, il faut une meilleure alliance entre toutes ces facs pour qu'elles puissent travailler ensemble, pour que les budgets puissent être mieux répartis et qu'on puisse mutualiser les moyens. Oui.
Vous comptez lancer l'opération apprentissage. En réalité, là aussi, comme d'autres partis, hein, notamment le Front de Gauche et Debout la France, là aussi, rien de nouveau finalement dans votre programme.
Bah, il n'y a pas besoin que ce soit forcément nouveau et que ce soit la nouvelle idée du siècle qui sorte, mais tout simplement, c'est une question de bon sens aussi. Les apprentis aujourd'hui, c'est malheureux, mais il y en a de moins en moins, ou alors ils sont pas, c'est pas les bons, ils n'ont pas les bonnes qualifications. Là, je vous parle, on a rencontré un tas d'entreprises qui embauchent des apprentis, il y en a encore quelques-unes qui arrivent, mais le problème, ils disaient, nous on cherche tel type d'apprentis, bah, malheureusement la région forme ces apprentis-là.
Donc même la question, c'est comme pour le monde rural, c'est une idée qui est proposée par beaucoup de partis à cette
élection.
C'est une
idée de bon sens, c'est une idée de
mais
bon sens. Mais
qu'est-ce
justement,
que vous apportez de
si,
plus que les autres
si enfin, mais c'est même pas forcément ce qu'on apporte de plus, mais ça veut dire que pour une fois, ça veut dire que s'il y a une cohésion sur une idée, c'est bien. C'est ce que les Français nous demandent finalement. Tous les jours, on entend dans la rue, ouais, faudrait vous entendre, gauche et droite quand même, pour gouverner, pour soit contrer le FN. Pour... Et quand on y arrive, quand on a des idées, ah bah oui, mais vous n'êtes pas différent des autres. Bon.
Une dernière question sur l'éducation. L'université François Rabelais, vous comptez l'agrandir pour attirer les jeunes, l'agrandir suffira ou il y a des idées concrètes?
C'est pas l'agrandir au sens matériel, enfin au sens bâtiment, forcément ça ce sera en fonction des besoins de l'université. Il y aura d'ailleurs une élection du nouveau président de l'université d'ici peu, lui-même on verra la ligne directrice qu'il voudra imposer. C'est aussi son choix, ce ne sera pas contre lui que ça se fera. La région en fait est là pour répondre aux besoins de l'université, donc l'université... À travers elle, les départements, toujours en lien, feront leurs demandes de ce dont ils ont besoin véritablement. Et la région sera là pour les accompagner. La région est véritablement là pour accompagner ce qui existe.
La question, c'est que vous parlez de développer un petit peu le pôle universitaire. De
bien sûr.
Comment vous comptez le développer? Comment vous comptez attirer
les
étudiants?
À travers justement la création. Alors, on a plusieurs points. On a par exemple la fameuse création de la fac dentaire. Ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, la région centre, on le sait, c'est un désert médical. Mais pas que pour les médecins. On parle tout de suite médecins généralistes. Mais c'est aussi pour les dentistes. C'est de plus en plus compliqué. Et le mieux pour garder des médecins ou des dentistes ou ce que vous voulez, le mieux pour les garder, c'est de les créer ici. C'est pas de les faire venir. On peut les inciter à venir. Mais si on les a ici, s'ils font leurs études, on sait comment ça marche. On fait ses études, on rencontre sa copine, on prend son appart et finalement, on commence à faire sa vie ici. C'est tout simple. Donc le mieux, c'est pouvoir les garder ici. Donc ça passe par la fac dentaire. C'est aussi par la création d'un véritable campus universitaire. N'existe pas. Et justement, c'est comme vous le disiez, on a des facs qui sont un peu éparpillées, et donc pour mutualiser et se regrouper afin d'accueillir d'une meilleure façon les étudiants.
Se regrouper géographiquement?
Non, ça va être difficile, je pense, de déplacer le bâtiment des deux Lyons au Tanner, par exemple.
Oui, alors, selon une étude de TNS, il y a un jour, les jeunes passent 2h12 sur leur smartphone. C'est plus que le temps qu'il faut pour manger chaque jour. Vous savez les écouter puisque vous voulez obtenir le label French Tech Loire-Vallée. Qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est ce que la mairie de Tours, surtout, enfin, c'était un projet qui était porté par Thibaut Coulon notamment, qui avait pour but, à travers ce programme, effectivement, de mettre en valeur numériquement la ville de Tours et les bords de Loire. Malheureusement, ce projet n'avait pas été retenu. Nous avions pourtant accueilli Axelle Lemaire, qui était la secrétaire d'État chargée du numérique, et malheureusement, on n'a pas été retenu. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut continuer, qu'il faut accompagner, développer, je suis sûr qu'en travaillant
alors, en Loire. Mettre en valeur, c'est-à-dire?
Eh bien, tout simplement, alors, à travers ce projet, il y a eu évidemment des ajustements, enfin, dans notre programme régional, c'est-à-dire à travers, par exemple, les zones de 4G, 3G, les fameuses zones blanches. Même nous, quand on est en campagne, quand on fait les routes, avec le téléphone, ça coupe 3 ou 4 fois quand on va dans certains endroits, quand on arrive. Bon.
C'est améliorer le réseau de la téléphonie.
En partie, il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas un pro de la French Loire-Vallée, puisque ça a été mis aussi en place par la municipalité. Je n'ai pas forcément suivi exactement le programme qui devait faire un certain nombre de pages. Mais effectivement, c'est améliorer, faire du numérique une véritable priorité. Alors c'est bateau de dire ça, ça passe par des investissements bien sûr, mais à travers les lycées toujours, à travers les collèges via le département toujours, à améliorer nos zones blanches, enfin à les faire disparaître même tout simplement, à véritablement connecter nos régions. Parce qu'avant, si vous voulez, pour construire une économie, on suivait les fleuves ou les routes. Aujourd'hui, les nouveaux fleuves et les nouvelles routes, c'est les lignes 3G, 4G, c'est ça maintenant qu'il faut suivre. Et si on n'a pas ça aujourd'hui, c'est très difficile de le travailler, on s'en rend compte.
On va passer à la culture. Vous tenez à l'image de la Touraine comme jardin de la France. Vous voulez pérenniser sa culture. Ça veut dire quoi ? On maintient juste les subventions ou on les augmente ?
Alors déjà, les maintenir dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, ce sera déjà pas mal, je pense. Après, bien sûr, la région fera des choix. On n'y est pas encore. On verra l'état des finances aussi, parce que j'imagine que vous le savez, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Donc je pense qu'on va avoir des belles surprises, comme au département. Et déjà, si on arrive à maintenir ces subventions qui sont effectivement primordiales pour faire rayonner notre patrimoine, ce sera une bonne chose. Les augmenter, on verra. Je ne peux pas vous dire effectivement ce qu'on fera exactement quand on trouvera l'état financier de la région.
Est-ce que ça passe aussi par une meilleure communication ?
De la part
pour des... de la part des de la région bien sur sûr. Le potentiel
alors ça c'est évident parce que la région c'est enfin grâce à François Bonneau le budget communication est effectivement porté à 12 millions d'euros ce qui est trois fois plus que celui du tourisme me semble-t-il donc le problème de notre région c'est effectivement il y a une mauvaise communication il y avait un budget mais il y avait pas de communication réelle derrière là on a vu les panneaux fleurir à l'orée de la campagne la région on se bouge pour toi à fond ma région qui a été le slogan repris par Bonneau malheureusement pour tout ce qui est du patrimoine culturel je dois avouer que ça a été limité, même si heureusement, la renommée de nos châteaux et de notre patrimoine est quand même connue, et là, on peut le dire, de par le monde, que la région centre, Val-de-Loire, ça parle, région centre, ça veut rien dire, c'est le bout de département qu'on a assemblé ensemble, Val-de-Loire, ça traduit quelque chose, donc je pense que oui, il y a une communication à faire là-dessus.
Alors, vous insistez sur ce nom qui est passé de région centre à région centre-Val-de-Loire. J'aimerais que les auditeurs comprennent pourquoi ce changement, quel intérêt réel, en fait.
Mais ça parle à qui, région centre?
Et pourquoi région Centre-Val-de-Loire, ça parle
région,
plus
parce que, alors, région Centre, il faut le garder, parce que c'était comme ça. Val-de-Loire, le Val-de-Loire, c'est quelque chose qui parle. Parce que la French-Loire-Vallée, la Loire, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et aux étrangers en premier. S'ils viennent aussi nombreux dans notre région pour visiter, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on s'appelle région Centre. Mais c'est pareil. Claude Barthelone veut aussi également changer l'Île-de-France. Parce qu'Île-de-France, effectivement, ça parle pas et c'est pas assez vendeur en termes de tourisme.
C'est de la communication, le changement.
Mais c'est important. C'est de la communication. Non, mais non, parce que ça traduit réellement quelque chose derrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on change en Centre-Val de Loire, ce qui est fait, on ne changera pas de nom. Il s'appelle comme ça maintenant. C'est un amendement qui a été voté. Donc ça, c'est fait. Mais ça traduit véritablement derrière la mise en valeur de notre région autour de la Loire.
C'est une manie quand même à droite. Hein. Passer de l'UMP aux Républicains, on a l'impression que ça va tout changer.
Ça faisait 10 ans qu'on s'appelait l'UMP. Mais l'UMP, moi, je vais vous dire mon sentiment personnel. Ça voulait dire quoi, UMP ? Union pour un mouvement populaire. Ça voulait plus rien dire. Les Républicains,
tous les partis sont Républicains.
Ah bon ? Vous êtes sûr ?
Oui, d'autant plus que c'est déjà pris aux États-Unis.
Le comparatif aux États-Unis, c'est les États-Unis. Nous, les Républicains, quand on a choisi le nom
pareil, le parallèle se fait naturellement.
Ah bah après, oui. Alors, vous pouvez faire le parallèle. Après, moi, je peux vous demander de réfléchir. Ça, ce sera encore autre chose. Mais les Républicains aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec nous.
J'ai pas dit ça, mais je veux dire, il y a quand même des similitudes.
Lesquelles ?
Il y a des similitudes déjà dans le nom, c'est ce que je veux dire.
Ah bah bien sûr, les Républicains, mais
on s'éloigne peut-être un peu du débat.
Je pourrais en parler des heures, parce que moi,
on en parlera une autre fois.
On invitera M. Corazza pour faire un débat sur le changement de nom et son importance.
Avec grand plaisir. Je serai là avec plaisir aussi, parce qu'il y a des choses à dire. Question transport maintenant. Ouais. Vous comptez améliorer le TER, la ligne ferroviaire Tourloche, mais rien sur le prix des billets en soi. Par exemple, je peux vous dire que Jean-Michel Baudin, le vice-président du conseil régional qui est au Parti communiste, veut réduire le prix des billets. Europe Écologie Les Verts veut même confondre première classe, seconde classe. Debout la France veut rendre les transports gratuits dans de nombreux endroits, les transports scolaires.
François Bonneau aussi. Enfin, moi, on m'a toujours appris que ce qui était gratuit, c'était payant.
Merci
pour
de rappeler que François Bonneau veut le faire aussi.
Voilà, François Bonneau a eu la très bonne idée de dire on va faire les transports scolaires gratuits. Oui, alors qui va payer ? Parce que moi, on m'a toujours appris si c'est gratuit, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Faut être assez naïf pour croire qu'on va pouvoir mettre ça en place, que le coût est estimé à je ne sais plus combien de millions d'euros pour une mesure qui, effectivement, n'est peut-être pas la priorité, parce que tout le monde accepte de payer pour un service public de transport en commun. Ça, c'est pas le souci, c'est une mesure démagogique, j'ai envie de dire. On est tous prêts à payer pour prendre le bus, pour on comprend les enjeux. Je pense qu'on peut influencer sur les transports sur d'autres niveaux. La région, par exemple, ce qui a été très mal fait, c'est quand un gamin se lève, ça c'est pour l'avoir vécu aussi, à 5h30 pour aller prendre son bus à 6h30 pour ensuite arriver au lycée à 8h. Ça c'est pas normal, les franges horaires c'est pas normal. Ça on peut travailler là-dessus, on peut pour effectivement les gamins ou les étudiants qui sont dans les milieux ruraux puissent avoir une meilleure desserte par les services de transport. On a aussi proposé, nous, le pass Navicentre, qui serait un pass unique pour tous les transports avec un tarif
Une carte unique pour toute la région, voilà. Un tarif unique pour toute la région.
Mais aussi interrégional, c'est-à-dire que si Valérie Pécresse est élue en Île-de-France, Bruno Retailleau au Pays de la Loire, Laurent Wauquiez en Auvergne, toutes les régions qui nous entourent, s'ils sont élus, on travaillera aussi un pass interrégional. Parce que par exemple, notamment, moi je pense à ceux qui sont à Chartres. Chartres, ils sont juste à côté de Paris, les transports, ils les prennent tout le temps. Ils prennent d'abord le train, ensuite c'est le TER, le métro. Si avec ça, on arrive alors à faire avoir une carte unique, ce sera quand même vachement plus simple.
On va passer à l'écologie, il nous reste plus beaucoup de temps.
Une dernière petite intervention. Sur votre site, vous avez votre programme d'un côté et la rubrique 17 ans de trop, entre guillemets, de socialisme, c'est pas marqué mais on peut le comprendre.
C'est marqué à la fin.
17 ans de trop sur votre site de campagne, et à un moment vous employez la phrase « Cela fait sans doute plaisir aux Verts, mais... » pour parler des normes environnementales à propos des entreprises, dans un contexte de COP21 et de grands débats sur le climat, parler de « ça fait plaisir aux Verts, mais c'est pas un peu maladroit, un peu ?»
La COP21, on est tous d'accord pour dire que c'est extrêmement important et que j'espère que ça ne se transformerait pas comme la malheureuse conférence de Copenhague de 2010 ou 2009. 2009. Ça, bien sûr, je leur souhaite de réussir parce que c'est autant pour moi que pour vous, c'est pour tout le monde, c'est un enjeu énorme. Après, quand on sait comment ça s'est déroulé, la COP21, ils l'ont demandé très tôt, la France. François Hollande, c'est dès 2012 qu'il a demandé à pouvoir organiser la COP21 parce qu'il n'y avait pas de grands rendez-vous internationaux et pile poil, ça tombait magnifiquement à des élections régionales qui en plus ont été déplacées aussi ces 13 décembre.
On va devoir avancer parce que cette émission touche à sa fin. On a une tradition de fin d'émission, c'est d'autoriser le candidat précédent a posé une question au candidat suivant. Hier, nous recevions justement Benoît Faucheux d'Europe Écologie Les Verts. Écoutez la question qu'il a vous posée.
Moi, la question que j'ai à lui poser, puisqu'il paraît que tout le monde devrait être un peu écologiste et tenir compte de l'environnement et de l'écologie dans ses programmes, c'est qu'est-ce qu'il propose ? Parce que j'ai lu leur programme, en tout cas j'ai lu ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres et je n'ai pas trouvé une seule fois le mot environnement et écologie ou même climat.
Alors ?
Bah, d'abord, nous, merci à lui de m'avoir posé cette question. Effectivement, vous trouverez pas le terme écologiste dans notre programme. Ça, c'est évident, parce que pour nous, effectivement, se préoccuper de l'environnement, c'est une chose. Être écologiste aujourd'hui, c'en est une autre. Donc ça, je peux lui dire, et je l'aurais bien dit en face d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ils ont véritablement politisé cette question, alors que ça nous concerne tous. Moi, je suis de droite, je suis pas pour un capitalisme fou, ou un libéralisme, ou l'argent, ou qui détruit la nature. Non, bien sûr, je me sens concerné par ces questions. Après, effectivement, la région doit accompagner toujours cette idée d'accompagnement de ce qui se fait déjà. Alors, à travers l'associatif, bien sûr, parce que, alors, et puis, on a reçu une magnifique lettre de François Bonneau qui disait que si la droite arrivait, couperait tous les financements aux associations. J'étais ravi de voir ça. Après, non, il faut toutes les associations qui luttent pour justement l'environnement ou qui s'en préoccupent, toutes les institutions doivent toucher des subventions ou être maintenues, bien sûr, et on les aidera à travers ça, à travers notre plan de relance aussi. Les bâtiments seront écologiques pour le coup. On essaiera un maximum, même si ça coûte très cher, on le sait. Donc il faut arriver avec cette question de l'écologie et de l'environnement, arriver aussi à se maintenir avec un budget qui n'est pas illimité.
Demain, nous recevons Arek Saïd de l'UPR. C'est à vous de lui poser une question.
Moi, je poserai une question à l'UPR, tout simplement. Pourquoi continuer dans leur programme à proposer de sortir de l'Union européenne alors qu'on est à des élections régionales ? Voilà.
Merci beaucoup, Hugo Corazza, d'être venu représenter le parti Les Républicains aujourd'hui sur Radio Campus Tour.
Merci
à Simon, merci à Tim.
Merci Maxime, merci.
Cette émission sera rediffusée à 16h cet après-midi. On se retrouve demain pour la dernière émission avec l'UPR. Je vous souhaite une bonne journée à tous.